Bonjour.
Donc, je m'appelle Franck Courchamp. Je vais commencer avec deux mauvaises nouvelles. D'abord, je ne vais pas vous parler de changement climatique. Et je vais vous parler de biodiversité. Et ensuite, je vais être aussi déprimant que ceux qui vous ont parlé de changement climatique. Donc moi, je suis écologue. Je travaille au CNRS en France. Et c'est vrai que pour l'instant, là, les climatologues nous ont un peu déprimés, même si on connaît un petit peu tout ça, le fait d'être mis en face de ces réalités, c'est bon, ça rafraîchit un peu. Mais heureusement, les écologues sont là et vont en remettre une couche. Donc moi, je travaille en biologie de la conservation. Je travaille sur essayer de comprendre les processus qui font que les populations déclinent et essayer d'éviter que les espèces s'éteignent. Alors, je vais vous parler quand même, pas de changement climatique, mais de lien avec le changement climatique, puisque je vais vous parler des impacts du changement climatique sur la biodiversité, qui, vous l'avez vu avec les premières présentations, sont en fait qu'une seule partie des impacts du changement climatique sur notre planète. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? La biodiversité, c'est un de ces termes que les scientifiques ont pour une fois réussi à faire pas trop compliqué. C'est la contraction de diversité biologique, biodiversité. C'est la diversité de toutes les formes vivantes. Voilà, c'est tout. Donc, vous savez ce que c'est que la biodiversité, c'est relativement simple, c'est la diversité du vivant. Alors, on en parle beaucoup de la biodiversité en ce moment, même depuis pas loin d'une dizaine d'années, puisqu'on est dans la décennie de la biodiversité des Nations Unies. On parle de la COP, on parle de l'IPBES. Pardon, l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Donc, dans la première présentation, on a eu quelques mots sur le GIEC, groupement intergouvernemental d'experts qui fournit au gouvernement les informations scientifiques sur le climat. L'IPBES, c'est la même chose sur la biodiversité. Et elle s'est réunie à Paris cette année, en début d'année, donc on en a pas mal entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? C'est plein de choses, mais une métrique assez simple, c'est de compter le nombre d'espèces. Ça va au-delà de ça, et ça va en deçà de ça, la biodiversité, mais c'est aussi le nombre d'espèces. Combien il y a d'espèces sur Terre ? Eh bien, il y a à peu près 2,3 millions qui ont été décrites par la science, qui sont reconnues par la science. La plupart sont des espèces animales. Près de 2 millions sont des espèces animales. Mais ce n'est pas tout. En fait, on connaît 2,3 millions d'espèces, mais les différentes estimations vont de 5 à 100 millions d'espèces. Vous voyez que c'est une incertitude extrêmement large, encore plus large que ce que les climatologues nous fournissent. J'imagine que si dans n'importe quelle de vos entreprises, vous donniez à votre patron une estimation entre 5 et 100, il ne serait pas forcément très content. Nous, les scientifiques, on ne peut pas faire mieux. Il y a un consensus actuel. Les dernières études qui sont peut-être les plus acceptées parlent de 15 millions. Mais alors 15 millions, c'est quand même encore loin de 2,3 millions. On est loin de connaître tout ce qui existe sur notre planète. Donc en fait, on connaît à peu près la pointe de l'iceberg. Et quand je dis on connaît, on a observé, mais on ne connaît pas forcément comment ces espèces fonctionnent et comment elles fonctionnent avec les autres espèces. Et c'est important parce que la biodiversité a un certain nombre de valeurs. Donc je vais vous parler de deux grands types de valeurs. Pourquoi c'est important de parler de la biodiversité ? D'abord, une valeur instrumentale, qu'on appelle aussi une valeur utilitaire, c'est la valeur qui est utile pour l'homme, à quoi ça nous sert à nous, et puis une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur pour la biodiversité elle-même. Donc je vais passer en revue très très rapidement quelques types de valeurs, juste pour que vous ayez un peu une notion de pourquoi la biodiversité, c'est important. D'abord, il y a des valeurs qu'on appelle économiques dans la valeur utilitaire. Les valeurs économiques, tout simplement, au début, c'est la nourriture. Tout ce qu'on mange, c'est de la biodiversité. Toujours, on ne mange pas de cailloux, on ne mange pas de métal. Donc tout ce qu'on mange, c'est de la biodiversité. Et pourtant, moins de 3% des plantes qui sont disponibles pour l'agriculture sont utilisées pour la nourriture. En fait, les trois quarts de la nourriture mondiale, c'est 12 espèces seulement. Et la moitié de la nourriture mondiale, c'est 3 espèces seulement. Donc il y a un potentiel énorme qui n'est absolument pas pour l'instant totalement utilisé. Les matériaux aussi, c'est quelque chose de très important qu'on oublie assez souvent. Le bois, la laine, le coton, le lin, le chanvre, la soie, les cuirs, le caoutchouc, les huiles. Nous, ça nous paraît peut-être un petit peu moins important parce qu'on vit souvent dans un monde de béton et de plastique. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le cas pour tout le monde et puis que quand même, on a ici par exemple beaucoup de bois. On s'habille avec du coton, on s'habille avec de la laine, avec de la soie, etc. 2 milliards de personnes dans le monde utilisent le bois comme combustible pour répondre à leurs besoins en énergie primaire, pour se chauffer et pour se faire à manger. 2 milliards donc sont vraiment dépendants du bois. La médecine, on pense souvent les médicaments, industrie chimique. En fait, non. Les deux tiers des molécules utilisées dans l'industrie pharmaceutique actuellement proviennent directement de l'exploitation de plantes à l'état naturel. Et pour les anticancéreux, c'est 70%. Donc nos médicaments, ce n'est pas uniquement de la synthèse chimique. En plus, on a environ 4 milliards de personnes qui sont dépendantes principalement des médecines naturelles. Donc là, on a énormément de composés qui sont utilisés, de composés naturels qui sont utilisés pour la médecine, et on a un potentiel inexploité qui est encore plus grand. Donc ça, c'était économique directement, les ressources. On a aussi ce qu'on appelle les services des écosystèmes, donc les services, entre guillemets, que nous rendent les écosystèmes gratuitement, sans qu'on ait à payer pour. Alors, on parle souvent de la pollinisation, le fait que 80% de nos cultures sont pollinisées par les animaux. On a aussi la fertilisation des sols naturels, on a la purification de l'air et de l'eau, et évidemment, on a la mitigation du climat. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais vous parler des valeurs non utilitaires, celles qui ne sont pas forcément utiles directement pour l'homme. Les valeurs culturelles, les valeurs spirituelles. Donc, il y a beaucoup de régions dans le monde où les gens ont développé une relation très particulière avec avec la nature, avec la vie. Donc on a aussi des valeurs religieuses, des valeurs éthiques, morales, philosophiques, et ces valeurs-là sont vraiment indépendantes de l'utilité directe que les espèces ont pour l'homme. Donc on peut dire que la biodiversité peut être importante pour elle-même. Et donc en résumé, la biodiversité est importante pour notre bien-être, elle est même importante pour notre survie, parce qu'on ne peut pas vivre sans, elle est importante pour notre futur, et elle est importante pour elle-même. Donc là, je vous ai résumé en 3 minutes pourquoi la biodiversité est importante. Et maintenant, bah, je vais vous donner un peu les mauvaises nouvelles. Comment elle va, la biodiversité? Je vous ai parlé tout à l'heure du rapport de l'IPBES qui a eu lieu à Paris, enfin qui a été délivré à Paris en mai dernier. Il était assez important ce rapport parce que c'était la première évaluation globale de la biodiversité. Donc on connaissait un petit peu ce qui se passait ici et là, mais là c'est vraiment un effort où tous les scientifiques ont mis ensemble toutes les connaissances, l'état des connaissances mondiales sur la biodiversité. Et alors on s'est aperçu que si on devait donner un seul chiffre, c'est environ 1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies, c'est-à-dire au cours de notre vie, ce qui n'a jamais eu lieu évidemment dans l'histoire de l'humanité. Donc ce graphe qui a l'air compliqué mais qui ne l'est pas du tout, alors ça donne les codes couleurs de ce graphe là. Donc quand c'est rouge, c'est très menacé, donc en danger critique, les espèces estimées en danger, vulnérables, quasi menacées et préoccupations mineures, et ça c'est des données insuffisantes. Ici, en chaque ligne, on a des groupes d'espèces qui ont été évaluées par les experts, et vous voyez que on a énormément d'espèces qui sont quasi menacées, très menacées à la folie, passionnément, etc. Donc vous voyez ici, en bleu, c'est la moyenne, et on a pour certains groupes une moyenne qui est très élevée d'espèces menacées. Ici, une courbe plutôt en fonction du temps, et on voit pour certains groupes pour certains groupes d'animaux, le pourcentage d'espèces poussées à l'extinction, et vous voyez qu'on a des choses qui ressemblent étonnamment à ce qu'on a vu sur les courbes climatiques jusqu'à maintenant. Et alors peut-être la différence entre la biodiversité et, que le, et le climat, c'est que le climat, c'est difficile d'en revenir parce qu'il y a, on a vu, hein, un temps de latence qui est énorme. La biodiversité, c'est beaucoup plus facile d'en revenir. La biodiversité est assez résiliente. Lorsqu'on arrête les pressions sur les espèces parce qu'elles se reproduisent, elles peuvent revenir très vite. Sauf que lorsqu'elles s'éteignent, ben, elles s'éteignent pour de bon. On n'est pas dans le Jurassic Park. On n'arrive pas à refaire des espèces qui se sont éteintes. Et donc là, ça, c'est un graphe qui est assez important pour réaliser que tout ce qu'on perd, on le perd pour de bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on perd les espèces? Il y a 5 grands facteurs globaux d'extinction. Le premier, c'est la perte d'habitat, la destruction des fonds marins lors de la pêche au chalut, la déforestation des forêts, la dégradation des sols, etc. Ensuite, on a les invasions biologiques. Lorsque l'homme introduit des espèces d'une région à une autre où elles n'ont pas évolué et où elles prennent le dessus et posent des problèmes pour les écosystèmes envahis. On a la surexploitation qui n'est pas juste l'exploitation des espèces, c'est une exploitation à un taux au-delà de la capacité naturelle des espèces à se renouveler. Donc, pour certaines espèces, ça veut dire qu'on exploite beaucoup, mais pour certaines autres, il n'y a pas forcément besoin d'exploiter beaucoup pour faire de la surexploitation. Lorsqu'on a des espèces qui ne se reproduisent pas très vite, par exemple, il suffit d'exploiter un petit peu pour que ce soit de la surexploitation. On a la pollution, pollution des airs, pollution des eaux, pollution des sols. Et puis on a le changement climatique qui est un des facteurs qui arrive sur le tard. Ça fait pas longtemps qu'on commence à étudier ça en biologie de la conservation, parce que ça fait un petit peu moins longtemps que les effets sont apparents. Et si on regarde un petit peu au niveau de l'importance de ces 5 facteurs, ben on voit que en fait le climat, pour l'instant, parce que c'est un facteur qui commence, entre guillemets, à des échelles évolutives, pour l'instant, le climat n'est pas le facteur le plus important de perte de biodiversité. Mais on va voir quand même qu'est-ce que ça fait. Alors pourquoi est-ce que c'est important le climat pour la biodiversité? C'est important parce que pour les espèces, c'est le premier facteur qui va faire qu'un environnement est favorable ou pas favorable. Ici, je vous ai mis la photo de deux espèces qui sont très très proches. C'est deux renards. Tous les deux vivent dans des déserts. Mais il y en a un qui vit dans un désert chaud, le fennec, et l'autre qui vit dans un désert froid, le renard arctique, le renard polaire, et vous voyez par leurs adaptations, par exemple tout simplement la taille des oreilles, qui va permettre ou non d'évacuer de la chaleur, qu'en fait on ne pourrait pas échanger leurs habitats. En fait, les scientifiques ont eu beau chercher, ce qui dicte les patrons de distribution des espèces, ce qui explique pourquoi une espèce est à tel endroit sur Terre, c'est le climat. C'est le climat qui explique le mieux de tous les facteurs qu'on a cherchés, la richesse de biodiversité des espèces sur Terre. Là où il y a beaucoup d'espèces, là où il n'y a pas beaucoup d'espèces. Pourquoi? Parce que toutes les espèces ont des limites de tolérance pour des facteurs environnementaux, au-delà desquels et en deçà desquels les individus ne peuvent plus se reproduire, se développer ou survivre. Donc très simplement, on va avoir une courbe un petit peu comme on l'a vu avec Valérie Masson-Delmotte tout à l'heure, une courbe logistique. Si on a ici un facteur environnemental avec un gradient de pas beaucoup à beaucoup, alors ça peut être la température, ça peut être autre chose. Et si ici on a le nombre d'individus qui vivent à ces différents types de température ou d'autres choses, en fait on a ce type de courbe très simple. On a beaucoup d'individus là où c'est bien, on n'a pas beaucoup d'individus là où c'est pas assez, et on n'a pas beaucoup d'individus là où c'est trop. Trop chaud, ou trop humide, ou trop acide, ou etc. Donc on a en fait des zones de stress physiologique à chaque côté, et on a même des zones d'intolérance, tout simplement. Les espèces meurent parce que c'est trop, ou c'est pas assez. Et on a beaucoup plus d'individus dans la zone de tolérance physiologique. Maintenant, le problème, c'est que cette zone de tolérance physiologique, qui dépend directement d'un facteur climatique, comme la température ou comme autre chose, si elle shift, si elle se déplace, alors on va se retrouver dans des zones de tolérance qui sont beaucoup plus faibles, et avec une plus grande zone de stress physiologique et même d'intolérance. Et ça, je vous ai donné l'exemple de la température, mais en fait, que ce soit pour les écosystèmes terrestres ou les écosystèmes aquatiques, ces facteurs qui déterminent les limites de la tolérance, et donc si une espèce peut vivre ou non à un endroit, sont quand même assez nombreux. Et alors, les effets du changement climatique, qui a donc commencé, hein, ces effets sont assez visibles. C'est pour ça que, en fait, nous, les écologues, ça nous fait toujours un petit peu sourire quand certains politiciens disent qu'ils ne croient pas au changement climatique, alors pas forcément en Europe, ailleurs, parce qu'en fait, les animaux, ils croient, les plantes, ils croient. Ils ont même commencé à réagir à ce que nous, souvent, on n'a pas commencé à faire. Parce que les changements qui sont observés sont nombreux. Et ils sont variés. Et en fait, ils sont documentés. Parce que ça fait très longtemps que, à la fois les scientifiques, mais aussi les amateurs passionnés, prennent des notes et notent ce qui se passe depuis donc des décennies, voire beaucoup plus. Et qu'en étudiant toutes ces données accumulées au fil du temps, on arrive à voir des changements. Alors, il y a plusieurs types de changements. Je vais vous en donner un exemple, les changements de phénologie. La phénologie, alors c'est un nom un peu compliqué, mais en fait c'est très simple, vous connaissez, c'est l'apparition d'événements périodiques dans le monde vivant, et c'est déterminé par les variations saisonnières du climat. Alors c'est par exemple la floraison, la date à laquelle les plantes fleurissent, ou bourgeonnent. Ça ne bourgeonne pas en automne, par contre les feuilles tombent en automne, c'est aussi de la phénologie. La date de migration des animaux, la date d'hibernation, la date de naissance. Et en fait, ça fait très longtemps qu'il y a énormément de gens qui notent le premier jour où les hirondelles sont revenues de migration, le premier jour où telle ou telle fleur apparaît dans le jardin. Et donc au fil des décennies, on arrive à voir à peu près quel changement il y a pour quelle espèce. Et on a une quantité de données qui est absolument incroyable, et on a pu étudier l'évolution, et on s'est aperçu par exemple que la floraison de certaines espèces a avancé de plus de 30 jours ces trois dernières décennies chez certaines espèces. Donc c'est quelque chose de vraiment très très important, ça va vraiment très très vite. Ça c'est un type d'effet, les effets sur la phénologie. Il y a d'autres types d'effets. En fait, les changements climatiques, ils affectent au moins 420 processus physiques et biologiques. Donc il y a énormément de choses qui se passent lorsqu'on a un changement climatique. Un autre type de changement, ce n'est pas les déplacements d'espèces qui vont essayer de suivre leur optimum climatique au fil des générations, c'est carrément les déplacements d'écosystèmes. On a des décalages qui sont prédits pour 5 à 20% des écosystèmes terrestres de notre planète, et en particulier, c'est les forêts de conifères, les toundras, les brousses, les savanes, les forêts boréales, tout ce qui n'est pas tropical. On sait que ça va changer énormément et que les écosystèmes vont se déplacer. On a parlé des blanchiments de coraux. On peut voir ça comme des espèces, on peut voir ça comme des populations de communautés d'espèces différentes ou comme des écosystèmes. Qu'est-ce que c'est que le blanchiment des coraux? En fait, les coraux, ce sont des organismes symbiotiques. Ce sont des animaux, même si ça ne ressemble pas à des animaux. Ce sont des animaux qui vivent en symbiose avec une algue qui s'appelle la zooxanthelle, qui est une algue microscopique qui vit à l'intérieur du corail. Et elle fournit au corail des nutriments, et le problème, c'est qu'elle ne supporte pas vraiment la chaleur, et que quand il y a trop de chaleur, les coraux relâchent ces zooxanthelles, ce qui fait que, au lieu d'avoir toutes les couleurs possibles de ces algues, ils deviennent blancs. Donc ils ne sont pas morts quand ils sont blancs, mais ils ont perdu leurs organismes symbiotes qui leur apportent leurs nutriments, et souvent ils meurent peu de temps après. En tout cas, quand il y a plusieurs épisodes, ils ne s'en remettent pas. Et on sait que l'augmentation de la température de l'eau, qui crée ce rejet des algues, stoppe la croissance des coraux, les laisse affaiblis, sensibles aux maladies, et à terme les tue. Et on sait aussi que les prévisions climatiques sont des pertes énorme, des proportions majoritaires des récifs de coraux à cause des épisodes de chaleur. D'autres pertes d'écosystèmes, c'est par exemple tout ce qui est aquatique dans le milieu terrestre. On sait que les températures plus fortes avec des précipitations plus faibles vont impliquer que certains lacs, surtout en Afrique, vont s'assécher, et que donc toute la biodiversité qui en dépend, dedans et autour, va disparaître. des cours d'eau aussi sont affectés, torrents, rivières, deltas, etc., qui sont en général des sources très importantes de biodiversité. On a parlé d'événements extrêmes. Le changement climatique, ce n'est pas uniquement le réchauffement climatique, ce n'est pas uniquement le changement de régime de précipitation, c'est aussi des événements extrêmes, et ces événements extrêmes ont évidemment un impact important sur la biodiversité, que ce soit sécheresse, inondation, tornade, tempête, cyclone, vague de froid, etc. Et ça, ça a créé, on l'a déjà observé à maintes reprises, des épisodes de mortalité de masse, qui sont évidemment très problématiques pour la pérennité d'une population et des populations d'espèces qui dépendent des populations touchées. On a parlé aussi du niveau de la montée du niveau des mers. Alors ça a aussi un impact direct sur la biodiversité, que ce soit sur les côtes ou sur les îles. Les îles sont très importantes pour la biodiversité. Ce sont des réservoirs où la biodiversité a évolué de manière isolée par rapport au continent, et donc la biodiversité y est souvent unique et très riche. Des études ont montré que avec certains scénarios de montée du niveau des mers et des scénarios pas catastrophiques du tout, on pourrait avoir plus de 10 000 îles totalement submergées, c'est-à-dire complètement 100% sous l'eau d'ici 2100, et des dizaines de milliers d'autres pourraient perdre plus de la moitié de leur surface, et donc souvent c'est difficile pour une population de vivre sur une île qui a déjà une surface limitée si celle-ci est divisée par deux. Donc là encore, une perte de biodiversité importante. Et puis j'ai parlé de perte d'écosystèmes ou de déplacement d'écosystèmes. Il faut dire un petit mot sur ce qu'on appelle les points de basculement. Les points de basculement, c'est lorsque on passe un seuil où on passe d'un écosystème à un autre. On peut imaginer cette pile de pièces où on rajoute une pièce à chaque fois, et il se trouve un moment où on a juste rajouté une pièce supplémentaire, on n'a pas fait une action très différente de toutes les actions précédentes, mais où la pile de pièces va complètement basculer. Et ça se passe un petit peu de la même manière pour les équilibres des écosystèmes, où à force de taper un petit peu dedans, de rajouter un petit peu des stress, l'écosystème peut basculer vers un autre type d'écosystème, et de la même manière que la pile de pièces ne va pas se remettre debout toute seule, on ne va pas repasser de l'écosystème numéro 2 à l'écosystème numéro 1. Il y a des études récentes qui montrent que les distributions potentielles des écosystèmes en Amérique du Sud fait que de larges parties de la forêt tropicale amazonienne pourraient devenir rapidement des savanes, et après, pour repasser d'une savane à une forêt tropicale, c'est toute une autre histoire. Et puis on a des pertes de population et des pertes d'espèces, qui est quelque chose qui parle peut-être un petit peu plus à tout le monde. Alors ici on a différents scénarios, donc pour les oiseaux, pour les amphibiens et pour les coraux. Les différents scénarios qu'on a vus dans les présentations précédentes, c'est les différents scénarios qui sont établis par les climatologues. Et nous on regarde, en fonction de ces scénarios qu'ils nous prédisent, qu'est-ce qui risque de se passer pour la biodiversité. Et donc en fait j'ai reporté ici sur cet axe la variation du scénario le plus optimiste au scénario le plus pessimiste. Et donc ce trait rouge en fait montre l'étendue des gammes possibles de perte d'espèces dans ces trois groupes d'espèces, et ça montre que entre un quart et plus de la moitié des oiseaux, des amphibiens et des coraux sont menacés d'extinction du fait du changement climatique. C'est énorme, et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que les changements qu'on a vus jusqu'ici, et j'ai été assez rapidement, donc je ne vous ai pas présenté tous ces changements, pourtant ils sont tous dus au réchauffement ou au changement climatique qu'on voit depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire moins de 1 degré. Là, on parle d'une amplitude qui pourrait aller de 2 à, jusque dans les scénarios les moins optimistes, 6 degrés. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on voit ce qui s'est passé à moins de 1 degré? Qu'est-ce qui va se passer si on augmente de 2 à 6 degrés? Et la question en fait, c'est: est-ce que 2 degrés c'est beaucoup? Alors on pourrait prendre l'analogie qui n'est pas forcément bonne, mais qui est quand même parlante. Si vous avez 2 degrés de plus, vous avez une sacrée fièvre. Et c'est une autre histoire que juste dire: ah ben dans la pièce il va faire 2 degrés de plus. Évidemment quand il fait 2 degrés de plus, bah, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable, mais lorsque le monde vivant a 2 degrés de plus, c'est autre chose. En fait, 2 degrés, on peut comparer ça aux températures moyennes de la Terre pendant le dernier pic de glaciation, il y a 20 000 ans. À ce moment-là, il y avait des larges surfaces de l'hémisphère nord qui étaient sous des centaines de mètres de glace, où on pouvait aller de la côte de l'Europe, Belgique, France, juste en Angleterre à pied, puisque il n'y avait pas de mer, c'était de la glace. Et en fait, c'était juste 6 degrés de plus froid que maintenant. Donc 6 degrés de froid plus maintenant, c'est une période glaciaire. 6 degrés de plus, on peut imaginer ce que ça peut faire. Et pour le monde vivant, en fait, il y a des études qui ont essayé de regarder ce que ça faisait. Alors en jaune, ici, vous avez une température supérieure de 1,5 degré. Et on voit le pourcentage d'espèces qui vont perdre plus de la moitié de leur distribution. Donc qui vont voir les endroits sur Terre où elles peuvent survivre diminuer de plus de la moitié. Et on voit que si on passe de 1,5 degré de plus à 2 degrés de plus, donc un changement vraiment pas très important, on va passer au double ou à bien plus du double de perte de biodiversité. Et si on est à 3,2, qui n'est encore pas quelque chose de très catastrophiste comme prévision, comme on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Valérie Masson-Delmotte, eh bien on voit que là, ce n'est pas du tout linéaire, on ne perd pas un petit peu plus, on perd énormément plus. Et donc, en fait, non seulement chaque degré compte, mais chaque demi-degré compte, chaque dixième de degré compte, parce que ça va faire énormément de dégâts supplémentaires. En fait, les espèces en voie d'extinction, si les températures augmentent de 2 degrés, c'est 5%. Si elles augmentent de 2,4 degrés, c'est 16%. Donc bien plus que le double, si on double l'accroissement. Et il faut se rappeler que tout ce que je vous ai dit là, c'est sur le changement climatique, qui n'est qu'une des 5 grandes menaces sur la biodiversité, et qui n'est pas du tout la menace la plus importante. Donc la biodiversité est et va être très impactée par le changement climatique, mais ce n'est pas tout, il y a les 4 autres grandes menaces, et elles agissent parfois de manière cumulée, voire de manière synergique, c'est-à-dire qu'une espèce qui est menacée par une cause risque d'être encore plus fragilisée pour une autre cause. Voilà, donc en conclusion de cette présentation très réjouissante, la crise de la biodiversité et la crise du climat, ce sont sans aucun contexte les plus grands défis de l'histoire de l'humanité. C'est le grand défi de la génération des jeunes de maintenant. C'est eux qui vont prendre ça vraiment de plein fouet ou qui vont résoudre le problème. Ce n'est pas notre génération. Notre génération, elle a juste contribué à mettre la nouvelle génération dans cette situation critique. Et donc, c'est vraiment important de ne pas minimiser les informations sur ces deux pans qui sont liés du changement global, qui sont en plus en interaction les unes avec les autres, et d'agir en conséquence, parce que, évidemment, maintenant qu'on est tous bien déprimés, bah, il ne faut pas juste aller boire un verre pour oublier tout ça, il faut réagir. Voilà, je vous remercie.